Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour et bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Nous nous retrouvons ce mardi 1er mars. Je rentre de Metz, je rentre de Lorraine, où grâce à une guide virtuelle, mais qui est bien en chair et en os à côté de nous maintenant au studio, Madame Dan Poncet, j'ai pu admirer à l'église Saint-Maximin de Metz les vitraux de Jean Cocteau. Donc j'étais emballé, non seulement par les vitraux, mais pour la ville aussi, et la vie de Jean Cocteau, dont nous aurons l'occasion, par la suite, de reparler. Nous accueillons donc Gisèle aujourd'hui, Madame Dan Poncet. Bonjour Dan.
Merci Patrick pour cette introduction.
Je vous en prie. Je passais par la Lorraine, donc je reviens avec mes gros sabots. Et vous allez nous parler d'art et évasion. Ça nous fait du bien aujourd'hui d'avoir un peu d'art et puis d'évasion. On essaye de s'évader de la Covid et puis de l'histoire qui se remanifeste un peu délicatement,
Rainement.
On va dire. Voilà. Et vous avez invité avec vous un sculpteur, si c'est bien ça, que vous allez nous présenter brièvement. Il s'agit de Martic, c'est ça ?
Il s'agit de Martic.
Martic, c'est-à-dire pour l'état civil ?
Pour l'état civil, oui. Mon nom à l'état civil, c'est Martin Éric. Donc,
Martin
voilà. J'ai
Éric.
Contracté tout ça pour
D'accord.
faire Martic.
Martigues, c'est pratique. Ça évoque la ville de Martigues dans les Bouches du Rhône.
Non, pas du tout, je pense.
Ah, pas pour vous. Ben pour moi, beaucoup, parce que c'est très intéressant.
Bien sûr.
Voilà. Gisèle, je vous laisse la parole.
Oui, alors...
Et pour interroger...
Mais, donc, on va rappeler un petit peu qui vous êtes.
Oui.
Donc, vous êtes un peintre qui a fait quand même carrière dans l'Ain. Et puis, on avait quand même fait un parcours en octobre 2020. Avec vous, on avait enregistré une émission de radio et on avait fait connaissance avec votre vie. Voilà. Et donc, vous allez nous parler de ce que vous prévoyez dans les jours et les mois à venir.
Très bien. Donc, oui, on a parlé de ma carrière artistique et maintenant on va parler...
Brièvement, hein, c'était une petite ouverture. Hein. Vous pouvez élargir, si
oui,
vous voulez.
Oui, maintenant on va parler de la galerie
voilà,
Art et Évasion
voilà,
et
voilà.
Du projet... et de la réalisation de cette exposition
voilà.
qui est en train de
mais qui
de
vous
dérouler.
Tient beaucoup à cœur.
Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que la galerie, jusqu'à maintenant, c'était comme ma passion, c'est les œuvres de Jean Cocteau, Jean Marais, les tapisseries d'Aubusson.
Ursa,
donc,
oui.
Essentiellement, il y avait ces œuvres et parallèlement, il y avait d'autres artistes. Mais si vous voulez, la galerie, il y a eu des transformations et le parc s'est enfin réalisé. Donc le parc est grand et peu...
Très accueillant.
Très accueillant. Mmh. Donc il a été sécurisé avec un portail. Donc je me disais peut-être qu'à la limite, il pouvait attendre peut-être des sculptures.
Oui,
ça s'est passé comme
parce
ça.
Parce que vous en mettiez quand même dans votre galerie, mais elles étaient petites, plus petites.
Bah, j'ai eu le plaisir de rencontrer Bertrand Fauconnet à Dijon, à un salon à Dijon il y a à peu près... 4 ans, et j'avais été enthousiasmée par ces sculptures, des bronzes animaliers, des petits animaux de nos régions et des gros animaux, mais surtout de notre région, parce que Bertrand Fauconnet est vétérinaire.
Donc il connaît toute la morphologie des animaux. Ah oui.
Alors j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ces animaux, et je lui ai dit, bah, écoutez, quand la galerie sera... Étoffée, mm-hmm. ou plus spacieuse, disons-nous, je serais ravie de vous exposer. Et on s'est de nouveau, je l'ai recontacté 3 ans après, et je lui ai demandé s'il était toujours partant pour exposer. Il m'a dit avec grand plaisir. Donc la première collaboration, ça a été avec Bertrand Fauconnet.
D'accord.
Ensuite, j'ai rencontré début 2021, cette période très triste, la Covid, où tout le monde était un peu bloqué chez soi.
Mm-hmm.
J'ai rencontré une sculpture de Martic sur Internet et j'ai dit j'adore parce que c'était une sculpture avec des gouttes d'eau fantastique et qui me plaisait énormément. Donc j'ai contacté l'artiste, on s'est donné rendez-vous, j'ai pris ma voiture et je suis allée le trouver. Il m'a montré son atelier, il m'a montré ses sculptures, son monde de femme, essentiellement de femme. Enfin peut-être il y a d'autres sculptures mais... J'ai retenu que celle-ci.
C'était celle-ci qui,
voilà.
qui vous a...
C'est celle-ci qui me plaisait.
D'accord, ouais.
Donc, beaucoup étaient vendus. Donc, il m'a montré des photos. Il restait quelques... Enfin, il y avait les nouvelles créations.
Oui.
Il y en avait 4 qui me plaisaient beaucoup. et je lui ai demandé si à la limite il serait d'accord pour venir exposer dans ma galerie. Mais je lui ai dit par contre, il faudrait que vous veniez dans ma galerie parce que c'est un peu atypique, c'est à la campagne. Donc il ne faut pas vous attendre une galerie rue de Rivoli. Voilà.
C'est un autre charme.
Donc il est venu, apparemment la galerie lui a plu et on a commencé une collaboration ensemble, donc début 2021. Donc j'ai eu la chance, et c'était parce que la période était quand même compliquée.
C'est très compliqué, voilà. Oui, c'est vrai.
De vendre ses sculptures et donc ensuite je suis retournée chez lui pour revoir ses nouvelles créations. Et ce jour-là, il était en train de boire un petit coup de blanc avec un de ses amis sculpteurs.
Ça vous a bien plu.
Voilà, c'était le printemps, donc il profitait des rayons du soleil. Et il me dit, je suis avec un ami sculpteur qui fait des pièces monumentales. Ah, je dis, alors la prochaine fois, il faudra prendre rendez-vous, j'aimerais voir ces pièces monumentales. Donc il s'appelle Serge Roquin. Donc peut-être 15 jours ou un mois après... Donc, je retourne voir les sculptures de Martic. Et il me dit, j'ai pris rendez-vous avec Serge Roca. Dans la voiture, donc on avait pris rendez-vous dans la voiture, Martic commence à me préparer. Il me dit, oui, mais Serge Roca, il n'aime pas que ses sculptures s'en aillent. Et en plus, il n'aime pas les galeries. Ah, je lui dis, ça se présente
alors,
mal.
Alors, il expose comment alors, si, c'est vrai.
Ça se présente mal. Ben, je lui dis, c'est pas grave, je verrai des sculptures, oui. Je passerai un moment et puis voilà. Donc, je vois ces sculptures, on reste 2 heures. Alors là, j'ai vraiment été vraiment scotché.
Bluffée,
oui. Gigantesque, de l'acier, c'était viril, c'était fantastique. C'était...
Ça fait un genre Jurassic Park quand on voit toutes ces grosses bêtes là.
Bah, il a un monde fantastique dans la tête. Il a toute une éducation avec les bandes dessinées quand il avait 18 ans.
Oui.
Il a beaucoup de pôles d'attraction avec des artistes que je ne peux pas tout énumérer, mais bon, il aime beaucoup Dali en...
Oui, c'est
Dali.
C'est quelqu'un de particulier, Dali.
Dali, César.
Oui.
Vous voyez, voilà, entre Dali et César, vous voyez, Dali, c'est le fantastique, César, c'est le monumental.
C'est ça, oui.
Donc, au bout de 2 heures, on boit un petit coup de blanc.
Et c'est pour se remonter le moral.
Et il me dit, on m'a jamais parlé de mes sculptures comme vous venez de m'en parler. Alors ça a été
un
bon point et un grand compliment.
Bien sûr.
Donc je lui ai dit, écoutez, peut-être que vous seriez d'accord pour exposer une sculpture.
Oui.
Mais par contre,
quand vous avez prévenu qu'il n'aimait pas.
Mais j'ai essayé. Et je lui ai dit, par contre, il faudrait que vous veniez voir le parc, savoir si ça vous convient. Et là, il m'a répondu. Si ça convient à Martic, parce que Martic était déjà venu, donc ça me conviendra. Et c'est parti très très vite. Donc d'une sculpture, on est passé à 2, on est passé à 3, on est passé à... Et après, il était d'accord pour mettre la majorité de ces grosses pièces à Saint-Just. Donc il y a eu cette idée d'exposition, hommage à la sculpture, donc avec... Serge Roca, avec ses pièces monumentales qui ont pris possession du gazon.
Il fallait les transporter là-bas.
Alors après, ça a été autre chose, le transport.
Oui.
Après, donc, il y avait Bertrand Fauconnet qui était déjà dans la galerie avec ses animaux.
Oui.
Et Martic avec ce côté sensuel, érotique. Donc, 3 artistes
totalement différents.
Totalement différents. Un monde complètement différent. Ouais. Donc, cette exposition s'est appelée Hommage à la sculpture. Elle a commencé au mois de juillet. Elle devait se terminer... fin décembre. Et moi, il y avait le gazon qui avait la nostalgie de voir ses sculptures partir. Il y avait Dan Poncet aussi qui avait la nostalgie de voir tout ça. Donc je vais vous lire un petit texte.
Absolument.
Avec plaisir.
Pour vous expliquer.
Mais oui.
Je trouve mon petit texte qui doit être là. Alors ça, c'était ma carte de vœux.
Oui.
L'annonce de l'exposition qui continue. Et l'annonce aussi du nouvel événement de printemps, parce qu'il y aura 3 événements de printemps.
Donc vous devez annoncer
et d'été
très tôt
avec les trois sculpteurs.
Ils seront présents.
Alors donc, le gazon amoureux des sculptures Jules Vernesque de Serge Roca, exposé depuis quelques mois sur son herbe printanière et estivale, pleurait depuis l'automne en pensant à leur départ programmé en fin d'année 2021. Les bronzes de Bertrand Fauconnet chuchotaient. Nous sommes bien dans cette galerie, nous avons beaucoup d'admirateurs, nous ne voulons pas déjà partir. Et les bustes de femmes en inox miroir de Martic, sensuels et voluptueux, semblait triste de devoir se priver du regard admiratif des femmes
oui.
et des caresses des hommes qui les découvraient.
On a le droit de caresser quand même.
Oui,
discrètement.
Oh, je ne sais pas.
On lit.
Alors c'est ainsi que j'ai ressenti ce léger vent de mutinerie imaginaire qui me soufflait le message de prolonger en 2022 l'exposition « Hommage à la sculpture » avec la complicité des trois sculpteurs. Voilà, donc c'est pour vous faire le lien, pour vous dire que l'exposition continue en 2022.
D'accord, un très beau
bien.
Trio.
Là, c'est bien, oui, oui. Mais un beau texte, c'est bien. Alors, donc, oui, allez-y.
Vous allez... si vous voulez, il faut que je... L'invité, c'est Martic.
Oui,
donc
oui.
Il faudrait quand même que je... Mais je voudrais vous lire...
Allez-y.
Le mettre sur les spots.
Alors donc, je vais peut-être
vous
parler un tout petit peu des sculptures de Serge Rocca, parce que...
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, on va commencer par... Oui, voilà.
Donc,
voilà,
c'est des pièces monumentales en acier.
Ah oui.
Donc, des pièces uniques. Les plus grosses font 4 tonnes, c'est pour vous dire que c'est vraiment...
C'est gigantesque.
Donc,
c'est...
le transport a été assez incroyable. Il a fallu un camion de 10 mètres et une remorque de 10 mètres avec une grue.
Qu'on voit exceptionnel, en somme. Oui. Qu'on voit exceptionnel.
Parce qu'ils arrivaient d'où ?
Du côté de Valence.
D'accord.
Martic et Serge Rocca sont de
Valence,
région.
D'accord. Oui. Ah, oui. Les deux.
Donc c'est pour vous dire que dans le parc, il y a une crevette qui fait 4,30 m.
Donc il y a de quoi manger, là.
Oui, il y a de quoi manger.
Oui, il faut du citron, alors. Hein.
Il y a un pied gigantesque, Jules Vernesque. Il y a des poissons, il y a des taureaux.
Le taureau est impressionnant.
Il y a deux taureaux.
Deux, c'est vrai.
Très camarguais, pour moi.
Bah, Serge Rocca est quand même origine espagnole. Donc, il y a ce côté quand même très viril.
Voilà.
Il y a l'hippocampe que vous avez vu, gigantesque aussi. Donc, voilà, ça, c'est Serge Rocca. Bertrand Fauconnet, lui, c'est des animaux, des petits martins pêcheurs... À la petite
c'est
belette.
De nos régions, en fait. C'est, c'est des animaux qu'on trouve facilement. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui chasse, qui pêche, qu'il est proche de la nature.
Exactement.
Ah, c'est ça.
Il pêche à la mouche. J'ai appris qu'il pêche à la mouche. Oui.
Il pêche la truite à la mouche.
Exactement.
D'accord.
Et par contre, il fait aussi des grosses pièces, comme il y a un sanglier grandeur nature en bronze.
Ah oui.
Un petit sanglier, mais un sanglier grandeur nature.
C'est quand même impressionnant, un sanglier, déjà. Oui, oui.
Et donc, je vais vous parler donc de Martic. Martic, lui, c'est un monde féminin qui est en inox polymiroir. C'est des bustes de femmes très sensuelles, où la douceur de l'inox va sublimer leur forme avec tendresse et érotisme. C'est un hommage à la féminité. Et pour annoncer Martic, je vais vous lire un petit texte sur les femmes. Alors, Martic, le thème de la femme idéale naît dans les songes de Martic. Cette légèreté dans ces sujets où la femme est sensuelle, légèrement érotique, mais réelle. Car avec les petits défauts que l'on perçoit sur les cuisses, les fesses ou sur la peau de ses sculptures, Martic nous réconforte, nous les femmes, en nous prouvant que nous sommes désirables, même avec nos imperfections. Donc je pense que c'est une belle introduction pour Martic. Et on va laisser peut-être parler Martic de son œuvre.
Tout à l'heure, tout à l'heure.
C'est caressant comme texte et comme allusion. C'est très bien.
Qu'en pensez-vous ?
Alors moi je trouve ça formidable, parce que sincèrement, le côté sensuel, et on n'en parle pas justement, les gens se cachent, oh là là, faut pas dire, faut pas... Mais non, c'est la vie, absolument. Donc c'est bien, moi je trouve ça formidable.
Oui.
Bravo, monsieur Martic.
Je vous remercie.
C'est une belle introduction, Martic.
C'est très bien. Je te remercie, Dan, pour cette introduction.
On trouve déjà tout ça à la Renaissance, chez une poétesse lyonnaise qu'on appelle Louise Labbé, qui a écrit 24 sonnets. Certains sont aussi, comment dirais-je, tout près de la forge, avec le feu. Mm-hmm. C'était à la Renaissance. Et pourquoi pas? C'est très bien, il faut appeler un chat un chat maintenant.
Avant de laisser la parole à Martic, je vais citer quelque chose. Donc, j'ai eu un client qui a acheté une des œuvres de Martic qui s'appelle La Bohème.
Et qui représente, alors dites-nous, expliquez-nous.
La Bohème, c'est une femme de dos, donc avec un fessier... assez extraordinaire, une chute de rein magnifique, et sur le dos une découpe de feuilles, parce que Martic est très très écolo.
Ah, en plus.
Voilà, il vous en parlera. Et le compliment, enfin la comparaison de ce client et amateur de cette sculpture m'a dit que cette sculpture lui faisait penser au printemps de Botticelli.
Oh là, quelle merveille.
Oui,
voilà.
C'est ça. Oui, 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 tout à fait.
Donc ah, avec ce compliment, je...
Alors dommage qu'il n'y ait pas d'image, hein, parce voilà. que là...
J'espère que j'ai fait rêver vos
oui,
auditeurs.
Mais, oui, mais alors, oui, oui. Je pense que les gens iront voir votre exposition.
Oui,
parce qu'il y a
il y a
vraiment,
une allusion
voilà,
aussi un peu
voilà,
à certains voilà. sonnets de Baudelaire aussi, un petit peu aussi. Le serpent
oui.
qui danse,
oui,
etc.
Oui.
Il y a du Baudelaire. Il y a les fleurs du mal, attention.
Oui. Bon, enfin, là,
mais c'est très bien.
C'est quand même un peu tendancieux, mais... bon, allez-y, Dan. Allez.
Et Martic a fait une sculpture que je viens de recevoir,
oui.
donc qui sera présentée donc à l'événement de printemps qui aura lieu. On le redira tout à l'heure au mois de juin. Et donc cette sculpture avait été faite pour à la limite les femmes pour le cancer du sein.
Le sein, oui. Le sein oui,
donc je viens d'installer cette sculpture. Elle est magnifique. Donc là, c'est pas, c'est le côté avec la poitrine, avec
oui,
les
oui.
cuisses, le ventre. Et un dessin de cette femme est recouverte de fleurs.
Oui, alors ça dit beaucoup de choses peut-être.
Ça dit beaucoup de choses.
Oui,
voilà.
Parce que ça masque le sein qui est disparu peut-être. C'est ça, non?
Ouais, après, l'interprétation n'appartient qu'à celui qui regarde. Mais la mienne, en tous les cas, quand j'ai voulu créer cette œuvre, c'est toutes ces fleurs, alors de printemps, puisque on voit qu'elles sont naissantes, recouvrent le sein, une partie du corps. C'est un peu, oui, pour la rémission de la maladie, c'est pour la renaissance de la vie, après une déchirure. Et donc, je voulais... que ce soit quand même sensuel, qu'on trouve de la sensualité dans l'œuvre, comme dans toutes celles que je fais généralement, mais avec ce côté un petit peu qui a eu une
déchirure. Malgré le drame,
voilà.
Oui, oui, une reconstruction qui se crée, et puis il y a toujours de l'espoir, en fait, c'est ça.
Oui, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir,
on
dit souvent.
Oui.
Donc là, c'était une sculpture que j'avais faite pour agir contre le cancer. Et elle se retrouve donc, dans la galerie de Dan, donc j'en suis ravi. Et j'espère qu'elle va trouver son acquéreur. Et puis voilà, elle fera sa vie ailleurs que dans mon atelier. Et ça sera très bien.
Et vous vous séparez difficilement de vos œuvres?
Non, je n'ai pas trop de difficultés. Il y a certaines œuvres que je garde longtemps chez moi. Et puis quand j'ai décidé de les mettre en galerie ou que les gens me les achètent, et ben je trouve que c'est leur destin aussi. Donc,
oui, c'est ça. Elles ont leur vie propre.
Exactement.
Et l'instant où elles sont exposées.
Si elles sont achetées, je trouve que c'est qu'elles ont trouvé. C'est que quelqu'un l'a suffisamment aimé pour l'acheter. Et donc, il la mérite. Et donc,
Vous partagez aussi ça.
Ouais, je pense que c'est être artiste, c'est partager.
C'est
autant partager son œuvre, mais aussi partager... ce qu'elle veut dire, et ça c'est...
Mais là c'est concret, hein. On comprend bien, enfin moi on comprend bien l'œuvre, là,
Oui, alors il y en a certaines où l'interprétation est différente de la mienne.
Oui, mais dans toute œuvre, hein.
Oui, voilà.
L'auteur dit quelque chose et celui qui regarde, c'est pas forcément ce qu'il reçoit.
Oui, exactement, hein. C'est une leçon que j'ai appris et je m'en contente tout à fait. Je comprends que tout le monde est différent et tout le monde voit ce qu'il veut
mais
voir.
Mais je sais, parce que moi je suis du milieu de la danse et le chorégraphe, quand il fait des chorégraphies, il exprime quelque chose.
Bien sûr.
Et le spectateur, il ressent peut-être pas là, du tout la même chose.
C'est ça.
Donc, c'est pareil pour vous, en fait.
Oui, exactement. Mais bon, en règle générale, les grandes lignes sont la douceur, l'érotisme, l'envie de toucher la sculpture. Il faut que moi, j'ai envie de toucher mes sculptures pour que je sache que les autres auront envie aussi.
Ah, oui.
Et voilà, ma sculpture est réussie de toute façon quand moi...
Quand vous sentez que ça suscite.
Oui, voilà, quand ça suscite ça. Et après, il y a toujours un dialogue derrière qui peut s'établir suivant la position, suivant ce que j'ai voulu
exprimer.
Voilà. Mm-hmm. C'est vrai que Dan disait que je suis un peu écolo. C'est vrai que j'aime bien mettre des fleurs, des feuilles dans mes sculptures, qui rappellent un petit peu aussi notre rapport au monde, qui est quand même un peu...
C'est dur.
Oui, il y aurait plusieurs émissions à faire sur ce sujet-là, je crois. Ouais, ouais, ouais. Mais en tous les cas, ouais, je voulais apporter ma petite touche écolo dans mes œuvres, malgré le fait qu'elles soient très érotiques, enfin pas très érotiques, mais un peu charnelles, on va dire.
Oui, c'est bien, oui.
Charnelles.
C'est très sensuel, mais c'est bien. Voilà.
Mais il faut apporter aussi un petit côté écolo. C'est pas écolo, c'est juste être responsable de ce qu'on fait de notre environnement, voilà, c'est tout ça.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, nous allons laisser les doigts du pianiste effleurer, pas la statue, mais le clavier, par exemple, avec le menuet antique, un extrait du menuet antique de Maurice Ravel. Eh bien, maintenant, nous revenons à Saint-Just avec Dan Poncé, Martic, et puis... Un nommé Fauconnet et Serge Roca, dénominateur commun de l'art de la sculpture. C'est bien ça. Et des animaux, puisqu'il y a des taureaux, des crevettes,
Il y a aussi des femmes.
Il y a aussi... Ah ben ça, on les met dans les animaux. On les met dans les bergères qui gardent les animaux, quand même.
Ah bon, attention, d'accord.
Hein, bon. Alors, Dan, qu'en pensez-vous ?
Je pense que cet hommage à la sculpture avec trois artistes qui ont des horizons complètement différents.
Oui, oui.
Voilà. Pour la personne qui vient visiter cette exposition, c'est super. Parce que souvent, les personnes qui n'aiment pas les œuvres très viriles de Serge Roca, ça c'est plutôt... L'œuvre de Serge Roca plaît quand même plus aux hommes qu'aux femmes.
Ah bon ?
Oui.
D'accord.
Parce que c'est très fort, très viril.
Oui.
Bertrand Fauconnet plaît aux hommes et aux femmes.
Bon voilà, comme il y en a pour tous les goûts. Et puis Martic.
Et Martic plaît aux hommes et aux femmes.
Voilà, parfait.
Et ce qui est formidable avec les sculptures de Martic, c'est que vous savez, quelquefois, quand une femme veut acheter un tableau de fleurs, elle demande à son mari : qu'est-ce que t'en penses, mon chéri, ce tableau de pivoine ? Oh, il répond. Oh, encore des fleurs,
oui,
on
ça.
En a déjà des fleurs.
Oui.
Par contre, quand une femme montre une sculpture de Martic et dit « Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri, de cette sculpture ?»« Ah, c'est très bien, oui, je suis d'accord.
» Ben voilà, c'est bien. Donc, il y a un accord entre les deux, c'est parfait.
Bon, là,
c'est le bouquet.
Là, je parle du côté tendresse, charnel, des œuvres de Martic, mais là, je vais faire le lien parce que j'ai fait... un clin d'œil en disant que son œuvre était très écologique quand même.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc là, je vous lis un petit texte. Mais malgré le côté léger de la beauté éternelle abordée dans ces sculptures, Martic nous fait passer des messages, par exemple avec Precious. Donc c'est un corps qui est hérissé de gouttes d'eau, qui est traité en inox polymiroir. Martic, il aborde le sujet de l'eau qui est si précieuse et qui n'est pas économisée. Donc c'est son texte, parce qu'il m'a expliqué que 17% de l'eau du globe sert à extraire les métaux que nous avons besoin pour nous donner le confort, c'est-à-dire dans notre vie moderne, pour nos voitures, nos portables, nos ordinateurs.
Oui, dans la vie courante, en fait. Oui.
Alors donc, cette sculpture qui est glaciale, c'est vrai qu'il y a un côté froid dans cette sculpture. Cette sculpture, donc, à la froide beauté, doit être un message pour tous. Calmons-nous, l'eau est précieuse, respectons-la.
C'est bien, parfait.
Voilà, Parole à Martic maintenant.
Oui, alors, j'essaye dans mes sculptures, pas toutes, mais en tous les cas, dans certaines de mes sculptures, de faire toujours passer un message, et il y a toujours quelque chose derrière, c'est pas juste de l'esthétique. J'essaye d'aller un peu plus loin, et plus les années passent, plus j'essaye de faire passer des messages, et je pense que c'est aussi le rôle de l'artiste de faire ça, mais c'est un long chemin. Donc, mon chemin a été chaotique, a été atypique.
Il y a beaucoup d'embûches.
C'est toujours dans le plaisir. Enfin, moi, j'ai eu des embûches. J'en ai eu dans ma vie pour refaire un petit peu le parcours, si je peux.
Allez-y.
Au départ, j'étais responsable commercial, donc rien à voir avec la sculpture.
Vous veniez pas d'une famille d'artistes.
Non, pas du tout. J'ai pas de famille d'artistes. J'étais juste peut-être un peu différent des autres quand j'étais petit.
Rêveur.
Oui, un peu rêveur. Puis dans la famille, enfin, même si on n'est pas artiste, ma sœur est autiste Asperger, mon neveu aussi. Mon grand-père devait l'être aussi, je ne l'ai pas bien connu, mais il était un peu différent lui aussi. Mm-hmm. Et même si on avait des copains et tout ça, l'autisme est différent suivant les niveaux. Donc on est tous, enfin, en tout cas moi je me sens un petit peu autiste au fond de moi. Cette petite différence a fait que très vite j'ai arrêté le foot parce que mes copains, ils aimaient le foot, j'étais avec eux, mais bon.
C'était pour partager des moments avec eux, mais pas pour jouer vraiment.
Exactement.
Mais oui,
et par contre, moi, j'adorais dessiner quand j'étais petit. J'étais dans mon monde. Je créais mes propres pistolets quand je jouais au cow-boy. Je créais mes propres jouets. Et je trouvais que c'était beaucoup plus. C'était beaucoup mieux de créer ses propres jouets
que de les trouver tout faits.
Ouais, voilà. Donc, le plaisir était plus de les faire.
C'était votre.
Ouais,
c'était
en plus,
à vous, c'était ça.
C'était ça.
Ouais.
Bref, et donc, passe ton bac et puis on verra après.
Oui.
À cette époque, c'était un peu ça.
Oh, ça existe toujours.
Oui, j'imagine. Donc, les écoles d'art, c'était pas fait pour moi. Et puis, j'en avais pas la demande puisque je savais même pas que ça existait.
Oui,
donc,
c'est ça.
Donc, j'ai continué les études comme on m'a dit de le faire. Et puis, après le BTS, que je n'ai pas eu d'ailleurs, je suis parti, j'ai fait mon armée, et puis après je suis parti en Angleterre parce que je voulais, il fallait que je me découvre moi-même. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai passé de très longues heures au Tate Gallery, où je prenais mon vélo, et puis mon day off, mon jour de congé, en fait, je le passais au Tate Gallery, j'avais mes petites habitudes.
Et vous avez admiré les...
Et j'adorais, et il y avait du Rodin, il y avait du Dali, il y a eu du Turner, j'ai eu une ouverture, alors que je n'avais pas du tout cette ouverture à l'art avant. Je veux dire, c'est juste que cet endroit-là, je l'ai visité comme un touriste visite un musée au départ.
Oui, mais vous avez découvert ça aussi.
Et j'ai découvert que cet endroit-là, j'y étais bien.
Oui.
Alors, mais je savais pas pourquoi. Je savais pas. Enfin, on peut être bien chez quelqu'un parce que c'est un ami. On peut être bien. Voilà, juste il y a des endroits où on se sent bien.
Mmh.
Et le Tate Gallery, c'était un endroit où je me sentais bien. J'aimais bien la cantine aussi. Donc c'était. Enfin, c'est pas une cantine, c'était un petit resto. Mmh. Je passais une partie de mes day off là-bas. Et donc, j'ai pas eu l'idée de devenir artiste à ce moment-là.
Avec le recul,
j'ai passé des heures devant des sculptures de Rodin et c'était très bien. Et puis après je suis rentré en France et puis je suis devenu responsable commercial. pour des brioches Pasquier. Donc je leur fais de la pub en même temps.
Elles sont très bonnes.
C'est gratuit. Merci. Voilà. Une pub gratuite.
Et donc j'étais en Espagne pour eux. Donc j'ai commencé le marché espagnol pour les brioches Pasquier. Et puis j'ai rencontré ma femme, qui elle était à l'époque sur Paris. Moi j'étais sur Barcelone. Donc c'était un peu compliqué. Et nos parents habitaient dans la région de Valence. Donc on a décidé tous les deux de revenir sur la région. Et je devais prendre la place du fils Pasquier, Jérôme. Et on a eu un grave accident sur l'autoroute où je me suis cassé la colonne, le bras, la jambe dans le même accident.
Grave.
Donc oui, plutôt grave. Et pendant un an, je n'ai pas pu travailler. Et au bout de 6 mois que j'ai pu remarcher, je suis allé dans l'atelier de mon grand-père, qui n'était plus là malheureusement, mais il y avait son enclume, son marteau.
Votre grand-père, il faisait quoi?
Alors mon grand-père était juste paysan, mais il avait des chevaux, donc il ferrait ses chevaux, ses outils à la forge. Et ma mère me racontait, quand elle était petite, elle tournait la manivelle de la forge pour attiser le feu et que mon grand-père puisse forger les fers
à chevaux.
Pour les chevaux et tout ça. Et donc, j'ai continué un petit peu, en autodidacte au départ, et j'ai commencé à faire des petits luminaires, des petites tables, des guéridons, des choses comme ça, en métal. Et puis, je suis retourné chez Pasquier, je leur ai dit, je veux changer d'activité professionnel, je veux devenir ferronnier d'art. Enfin, au départ, c'était juste ferronnier, d'ailleurs. Et donc, ils m'ont pris un peu pour un fou parce que j'avais une très bonne place.
Entre les brioches et puis le fer.
Oui, et puis surtout que j'avais une bonne place. Je voyageais toujours en avion, dans les premières classes. Donc, j'avais un certain statut au sein de la...
Une vie un peu privilégiée.
Oui, c'est ça. Mmh. Alors, j'avais que 30 ans à l'époque. Je commençais ma vie professionnelle, mais j'étais déjà reconnu auprès de mes collègues, alors que moi, j'avais loupé mes études. Et puis là, j'avais une reconnaissance professionnelle, que ce soit auprès de ma famille ou de mes amis. Eric, il a réussi parce qu'il a une bonne place.
C'est ça, voilà.
Et donc, j'étais content de moi et tout ça, mais... je me rappelais tant le temps passé à créer mes jouets quand j'étais petit. Et là, je découvrais qu'enfin, je pourrais en faire une activité professionnelle, quoi. C'était, je sais pas, quelque chose de merveilleux de se découvrir que, enfin, un rêve que j'avais fait quand j'étais petit allait devenir réalité. Et je découvrais ça. C'était une vraie découverte. Et donc, j'ai fait des stages, des formations en ferronnerie, enfin en métallerie-serrurerie, sur Valence, à l'AFPA. Et puis après, je me suis fait licencier. Et puis en France, on a la chance de pouvoir faire des formations. Quand on y a droit, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'en ai eu droit. Bon, comme j'avais travaillé avant, j'avais droit. Mmh. Et donc, j'ai fait une autre formation en ferronnerie d'art à Toulon, donc pendant un an encore. Et donc, pendant 2 ans, je me suis formé. Et en même temps, j'ai construit mon atelier. Donc, dans les week-ends, je construisais mon atelier. Et la semaine, j'étais en formation. Et donc, j'ai construit mon univers. Et puis, j'ai fait 10 ans d'artisanat.
La formation, c'est en alternance? Comment ça se passe?
Non, c'était une formation pleine...
À l'école, tout le temps.
Ouais, à l'école, tout le temps. Il y avait des stages en entreprise. Oui, d'ailleurs, une petite anecdote, si on a 2 minutes, c'est que c'est pendant cette formation, où ma première formation en métallerie-serrurerie, où mon professeur de l'époque m'a dit, écoutez, on n'est pas très nombreux cette session-là. Je vais vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Serge Roca. On va aller dans son atelier.
C'est là que vous l'avez rencontré, en fait.
Et donc, je venais de prendre ma décision de passer du monde du salariat au monde de l'artisanat.
Ah, oui.
Donc déjà, c'est un grand pas, parce qu'on saute vraiment dans le vide. Quand on est salarié, on est peinard. Bon, on peut se faire virer, mais si on a un CDI et qu'on fait bien son boulot, généralement, on est couvert.
Oui.
Et puis, on a le chômage si ça passe mal et tout ça. Donc, on est plutôt relax. Et donc, moi, je me suis dit, je vais devenir artisan. Donc là, il n'y a plus le chômage.
Pas du tout.
Et puis, il faut des devis, il faut bien les réaliser si on veut être payé. Enfin, voilà, il y a un certain
temps. Pour rentrer dans ses frais, déjà.
Exactement.
Pas être malade.
Il y a des investissements.
Ne pas être malade, oui.
Exactement. Il faut acheter des machines, construire. Enfin bon, il y a des investissements, il y a du danger et tout ça. Mais on est son propre patron. Et donc, moi, j'avais fait ce choix-là. Et j'étais dans cette...
Vous avez pris des risques quand même.
Oui, mais c'est très bien, je regrette rien.
Vous avez joué avec le feu un peu.
Exactement. Ah. Et bref, j'étais plutôt fier de moi en me disant que j'accomplissais mon destin, on va dire, ou mon futur, bref, et j'en étais fier. Et je rencontre Serge Roca. Et j'arrive dans son lieu de création. Et à l'époque, il avait fait ça représentait Poséidon ou quelque chose comme, enfin, un personnage, mais qui faisait 4,50 m de haut,
ah oui,
avec un trident.
Oui, c'est Poséidon, c'est ça.
Et avec avec des pièces de récupération, quoi.
Ah oui.
Mais on voyait pas les pièces de récupération. On voyait vraiment la forme globale et toute la force que ça pouvait exprimer. Et je me tourne, derrière moi, il y avait un scorpion énorme de 3 mètres de, avec des pièces de mécanique, de grosses machines. Et il était en train de faire un rhinocéros sur son établi. Et je dis, et j'avais 30 ans à l'époque, hein. Et je me dis, oh, il y a encore un mec qui est encore plus fou que moi. Que lui, il est devenu artiste, et il fait vraiment ce qu'il veut. Et quand je serai grand, alors que j'avais 30 ans, quand je serai grand, je serai Serge Rocca. Je serai Serge Rocca. Et ça a été vraiment un moment très particulier dans ma vie parce que je croyais que j'avais...
J'ai bien rencontré votre maître.
Ouais, un peu, ouais. C'est bizarre parce que je croyais que j'avais vraiment franchi un grand cap en passant du salariat à l'artisanat. Et j'ai pris une claque, comme si je me prenais pour quelqu'un de plus grand que j'étais, parce que j'ai rencontré Serge qui, lui... Il s'était foutu de toutes les conventions et il est devenu artiste dès le départ. Enfin, il n'est pas devenu artiste, lui, il est artiste né.
Il est né artiste.
Ouais, ouais. Et là, j'ai pris une sacrée claque. Et puis, bon, l'avenir nous a rassemblés plusieurs fois et puis on est devenus amis. Et maintenant, Serge est mon meilleur ami et voilà, on s'appelle quasiment tous les jours. Je l'ai eu tout à l'heure avant d'arriver, d'ailleurs.
On lui parlait de l'émission, j'espère.
On lui a parlé de l'émission, bien sûr. Il m'a dit, oh, écoute, tu me rappelles après l'émission.
Il écoutera l'émission.
Voilà, exactement. Donc voilà ma petite parenthèse avec Serge. Et puis bon ben voilà, après moi j'ai une fois que j'ai fait mes formations, j'ai fait 10 ans d'artisanat, donc j'ai fait la montée d'escalier, des pergolas, des choses comme ça, et à chaque fois que je faisais un salon
un peu de serrurerie, des choses,
voilà, exactement, oui. Tout à fait.
D'accord.
Et à chaque fois que je faisais un salon, je présentais une petite œuvre.
Donc vous exposiez.
Alors c'est juste que c'était des foires à l'artisanat que je faisais,
oui,
à l'époque,
oui, oui.
Pour montrer mon travail, pour capter des clients, et donc je faisais à chaque fois, je prenais une semaine pour faire une petite œuvre d'art.
Que vous présentiez en même temps.
Que je présentais, d'accord, en même temps sur mon stand.
Oui,
et à chaque fois, donc, les gens s'arrêtaient pour l'œuvre d'art et puis ils me disaient, ah, mais vous faites aussi des pergolas, on en a besoin d'une. Et
oui,
donc,
oui,
du coup, c'était le produit un peu d'appel.
Oui.
Et puis d'une, ça s'est passé à deux, trois, quatre, et puis les années ont passé. Et la dernière année que j'ai fait les salons, eh ben, voilà, je me suis retrouvé avec un stand de 35 mètres carrés qui était offert par la foire elle-même pour présenter toutes mes œuvres.
Vos œuvres.
Et donc à partir de là, j'ai dit, bon, bah, il faut vraiment que je change d'orientation,
oui,
j'arrête de faire de l'artisanat et que je me concentre vraiment à l'artistique. Et là, ça fait 9 ans, je crois que cette année, ça va faire 9 ans que je suis à la Maison des Artistes, que je ne vis que de l'art. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des galeristes comme Dan qui vendent mon travail, qui apprécient mon travail et puis qui font surtout partager
aux autres. C'est important.
Super. Donc c'est vrai que quand j'ai rencontré Dan, ça s'est fait tout bêtement au téléphone. Elle me disait, je suis sur internet, j'ai vu une de vos œuvres, j'aimerais vous rencontrer. Et puis après je me suis déplacé jusqu'à la galerie parce que c'est vrai que la galerie est un peu atypique.
C'est pas
une galerie dans, en ville, avec des néons et tout ça, mais par contre le lieu est magique, le parc est superbe, la galerie elle est super grande et toutes les pièces sont mises en valeur.
Tout est mis en valeur.
Ouais, elle a fait l'effort, et c'est pas dans toutes les galeries, que les éclairages soient super bien.
C'est très important pour une œuvre.
C'est un paradis.
C'est ça, ouais.
L'éclairage est très important.
C'est vraiment un écrin.
C'est un paradis.
Ouais. Mais il n'y a pas que l'aspect matériel. Je pense que la galeriste y fait pour beaucoup.
Bien sûr. Et
même quand elle m'a dit, viens voir dans ma galerie, au moins tu te rendras compte si ça te plaît ou pas. Mais je pense que la galerie aurait pu être moins belle que ce qu'elle n'est. J'aurais fait confiance à Dan, parce que Dan a vraiment...
Parce que c'est un personnage, quand même, Dan.
Dan est un personnage, et j'ai vu tout de suite qu'elle appréciait mon travail. Et quand une galeriste apprécie votre travail...
Il n'y a pas de faux compliments chez elle. Elle aime ou elle n'aime pas. Voilà.
Exactement.
Oui, c'est tout à fait Dan, ça.
C'est passé tout de suite. Je lui ai fait confiance directement. Et puis, ça fait pas très très longtemps. Hein. Ça doit faire deux ans maintenant qu'on est ensemble, enfin qu'on se connaît.
Un an et demi.
Un an et demi, même pas.
Ah
ouais.
Oui, même pas deux
ans. Et voilà. Mais par contre, voilà, elle a déjà vendu mon travail et ça se passe plus. Enfin, moi, ça se passe très bien de mon côté. J'espère que toi aussi, Dan, ça se passe bien.
Bon, sinon, elle aurait été arrêtée.
et donc voilà. Donc c'est une très belle histoire pour l'instant, en tous les cas.
J'aime bien titiller Martic dans le pousser dans le côté très très sensuel, très érotique de ses œuvres. Je trouve qu'il est merveilleux.
Il n'en parle pas ?
Bah, il ne peut pas en parler, lui. C'est pour ça que c'est
difficile.
Moi qui en parle.
Ah, ben,
oui,
tu...
voilà.
C'est ça, voilà. Vous avez raison.
Et ce qui est important pour un galériste, puisqu'il parle des galéristes, c'est à la limite, ce n'est pas être là pour gagner de l'argent. C'est sûr qu'il faut gagner de l'argent pour que ça tourne, puisque pour continuer, il faut
bien
gagner de l'argent.
Bien
Mais
évidemment.
Ce qui est important, c'est de faire passer sa passion. Et moi, quand je ne peux pas vendre quelque chose que je n'aime pas. Donc, à la limite, j'adore les œuvres de Rocca, j'adore les œuvres de Fauconnet, j'adore les œuvres de
Martin. Oui, mais pour des raisons différentes.
Pour des œuvres différentes, mais je fais passer aux gens, aux personnes, à mes clients qui vont acheter, la moitié ma passion et la moitié l'œuvre. Et c'est le mélange des deux qui permet aux personnes de faire le pas pour acheter. Parce que entre aimer une sculpture ou une peinture et l'acheter, il y a un monde.
Hein. Oui, c'est vrai.
Il y a un monde. Mmh. Voilà.
Et chez vous, les œuvres sont embellies par la galerie en plus. Tout est étudié.
Tout est bien
éclairé,
étudié.
Ah oui, mais mes chers Patrick, une femme au lever, quand elle n'est pas maquillée tout, ni pas peignée, elle est quand même moins jolie que quand elle est...
Apprêtée.
Les,
oui, mais
les
enfin,
sculptures,
elle, peut
c'est pareil.
Aussi, elle peut être aussi belle si elle est au saut du lit.
Oui, ça c'est bon pour 18 ans, mais plus tard, c'est plus délicat.
Après, c'est un peu superficiel.
Donc c'est important de mettre en valeur...
Bien sûr.
Voilà. Je veux dire par là que nous sommes à la campagne, dans un château, avec des dépendances, avec des communs, avec toute une histoire. Il y a un cadre qui est pour une galerie rarissime. Mm. Parce qu'une galerie dans un château, disons, c'est encore un supplément en plus.
Ah, le château, je ne l'ai plus qu'en décoration.
Mais surtout, ce que disaient les Allemands, il y a une Stimmung, il y a une atmosphère.
L'atmosphère. C'est ça.
Que la femme soit parée ou pas, non, il y a toujours l'atmosphère de la présence. Mm. Et c'est à nous d'aller creuser un petit peu.
Parce que là, je vois, il y a deux sculptures de Martic que j'ai placées avec deux grandes appliques qui pétillent, gigantesques. Et il n'y a même pas besoin d'éclairer ces sculptures.
Elles s'éclairent d'elles-mêmes.
L'éclairage de ces appliques font vibrer, bouger.
Font vivre, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de votre travail? Comment est-ce qu'on commence la sculpture, par exemple? Votre travail, il commence par quoi?
Alors, il y a eu des évolutions, bien sûr, mais depuis quelques années, je travaille... d'abord, je fais un modelage, donc je travaille la terre.
Alors, au début, c'est un dessin, non ?
Alors, au début, c'est une idée. Au début, c'est juste une idée. Voilà, c'est une image fugace que j'ai vue, soit à la télé ou sur Internet, ou sur... ou
des
même
images
des fois,
comme ça,
voilà,
qui...
une femme qui passe entre deux portes.
D'accord.
Qui vont me donner l'idée d'une... Alors, j'appelle ça des lignes de force que j'essaye de reproduire sur mon tableau noir. C'est-à-dire qu'une chute de rein, le galbe d'un sein, ou voilà. C'est juste des traits comme ça que je trouve très sensuels. C'est vrai que la courbure d'une fesse, ou je sais pas... Enfin, y a toujours quelque chose que je trouve très érotique et dans la courbure de la femme. Et je me dis quelle sculpture pourrait mettre en valeur cette courbure-là, quoi, cette ligne de force.
Bah, il en parle bien quand même. Hein.
Ah. Oui, je crois.
je
pense que je l'ai libéré verbalement.
C'est bien.
Et donc voilà, ça part de là. Ça part juste d'une image fugace que je rencontre, et puis à partir de cette image-là, je vais essayer de la mettre en valeur par une sculpture. Et cette sculpture-là, elle va... Par exemple, là, je suis en train de créer une belle paire de fesses avec une cambrure magnifique. Et cette sculpture-là, il faut qu'elle soit absolument... qu'on ait vraiment envie de la toucher. Voilà, il faut que moi, ma terre, en plus, la terre, c'est... On a les mains...
Vous commencez par la terre, en fait.
Je commence à la terre, voilà. Donc, je fais la sculpture en terre. Et là, c'est très agréable, c'est très sensuel, c'est très... alors là, en ce moment, il fait froid, donc la terre est froide, l'eau est froide.
Pour modeler la terre, ça ne doit pas être facile.
Ouais, mais ça reste toujours très sensuel, malgré tout.
D'accord.
Donc voilà, j'arrive toujours à trouver une part de sensibilité, quelque chose de charnel ouais, qui se dégage de cette étape-là de la création. C'est-à-dire qu'on met en forme des idées. Et ça, c'est super bien. Après, il y a le travail une fois que la terre est faite, il y a le travail du métal. Donc moi, j'utilise des plaquettes d'inox qui font...
Ça se trouve facilement, ça ?
Alors moi, je l'ai fait au début, c'est moi qui l'ai découpé. Elles ont une certaine dimension, elles font 60 par 37 et par 3 mm d'épais. Donc pour les non-initiés...
Pour travailler
C'est de l'inox 316L, c'est un inox très particulier, c'est-à-dire que c'est le meilleur inox aujourd'hui qu'on peut trouver.
Ouais.
Après, bon, et cet inox-là a une très bonne résistance à la corrosion, donc c'est très particulier. Et en plus, il est chargé en chrome. Et le chrome fait en sorte qu'il y a une certaine brillance quand on fait du polymiroir, quand on révèle le polymiroir de la sculpture, eh bien, ça, on a un reflet quasi un miroir.
Merci. On repart avec le piano, si vous voulez bien. Une petite interruption. Nous repartons danser avec le menuet de Ravel, tiré du tombeau de Couperin. Et nous écoutons encore le pianiste et ses doigts qui continuent de se promener. Mais là, c'est sur le clavier uniquement. Là, c'est sur le clavier. Voilà. Nous retrouvons Dan Poncet et Martic qui se promènent bras dessus, bras dessous, dans le jardin enchanté de Saint-Just.
Et puis aussi dans l'atelier de Martic, puisque
nous
en étions là.
Et nous poursuivons.
Voilà. Donc, alors avec plaisir.
Alors, oui, donc j'utilise des petites plaquettes donc, qui font 6 cm par 3,7 cm et par une épaisseur de 3 mm en inox 316L, parce que ça utilise du chrome et que, voilà, une fois que c'est polymiroir, on a un polymiroir magnifique et on se voit dedans. Donc, il y a deux choses à dire, c'est que mes plaquettes font une certaine dimension parce que j'utilise le nombre d'or.
C'est-à-dire ?
Alors, le nombre d'or, c'est... on va dire que je ne crois pas en Dieu, mais la seule critère objectif qui me fait douter, c'est ce nombre d'or. Parce que ce nombre d'or, on le retrouve de partout. C'est-à-dire que aussi bien dans notre ADN, donc c'est un ratio entre une distance et une autre, on le retrouve dans notre ADN, on le retrouve dans notre morphologie, c'est-à-dire le rapport entre la première et la deuxième phalange, c'est 1,618. Vous voyez ? Et dans tout notre corps, en fait, on retrouve ce 1,618. On retrouve dans l'enroulement de la coquille de l'escargot, dans la fleur de tournesol. On le retrouve dans toutes les créations, dans les galaxies, dans l'enroulement des galaxies. Ah. Voilà, on retrouve ce 1,618 un peu partout. Et comme on le retrouve de partout, on dit oui, ça peut être un hasard, mais quand même, c'est vraiment de partout, quoi, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand.
Oui.
On retrouve
animal, végétal, partout.
Léonard de Vinci l'avait l'utilisé aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que ce 1,618, il gérait un petit peu la création qui nous entourait. Donc, quand on voit quelque chose de beau dans la nature, enfin, quand on voit la nature, on voit le 1,618. Et quand vous faites un visage qui est, en dessinant, avec le 1,618, le visage est parfait.
Il est
parfait.
Ah,
c'est
oui.
Une espèce de perfection naturelle si on utilise ce rapport-là. Et en fait, on est géré depuis notre naissance en regardant autour de nous, la nature, j'entends. On voit la beauté du monde à travers ce chiffre-là, à travers ce 1,618. Et donc, j'ai voulu mettre ce 1,618 dans mes sculptures. Donc, je l'utilise dans mes petites plaquettes de métal, et je l'utilise aussi après quand j'ai un doute sur la grandeur d'une œuvre par rapport à sa largeur, ou dans une posture, ou peu importe. Quand j'ai un doute, je me réfère toujours au 1,618, parce que je sais que je vais tomber juste. Mmh. Alors après, bon, voilà, c'était juste une parenthèse, mais je voulais que ce chiffre-là apparaisse dans mes sculptures. Parce que j'ai une grande interrogation sur ce chiffre-là, parce que si le monde est organisé, c'est qu'il y a un organisateur.
Ah.
Et là, ça me fait dire que même si je ne crois pas en Dieu,
il y a
quand même quelque chose. Bref. Donc voilà pour ce 1,618. Donc, une fois que j'ai ces plaquettes de métal, je vais les façonner à l'enclume, avec un marteau, sur une enclume. Je vais la façonner pour qu'ils viennent se habiller ma terre. Donc j'ai une sculpture en terre, comme on expliquait tout à l'heure.
Est-ce que ça se soude, ça se sculpte facilement, l'acier?
Alors,
ça ne doit pas être facile quand même.
Alors l'acier est déjà très dur.
Oui.
Et l'inox est encore plus dur.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Oui. Donc c'est plus dur. Alors déjà, c'est beaucoup plus cher. Et puis c'est plus cher aussi, la soudure est plus chère, le gaz qu'on utilise pour souder est plus cher. Et puis après, pour meuler la soudure, on a un cordon de soudure, quand vous soudez deux morceaux de métaux ensemble,
après,
en fait.
Il faut meuler. Oui.
Voilà, il faut meuler. Mmh. Et si c'est un cordon d'acier, eh ben, vous allez le meuler en 20 secondes. Si c'est un cordon d'inox, vous allez mettre 30 secondes.
Ah,
et
oui.
Vous allez utiliser plus de disques à meuler et tout ça.
Ouais.
Donc en fait, tout est un peu plus compliqué et un peu plus long, un peu plus fastidieux. Mais le résultat est beaucoup, enfin pour ma part en tous les cas, on arrive à avoir du polymiroir, donc on se voit dans la sculpture, et ça, ce rapport avec ce dialogue, on va dire, même avec une sculpture, c'est-à-dire quand on va dans un musée ou dans une exposition et qu'on on s'arrête devant une sculpture ou peu importe, il y a toujours une espèce de dialogue qui se fait avec quel est le rapport? Pourquoi cette œuvre-là spécifiquement nous a arrêtés? On ne sait pas pourquoi, parce qu'elle nous plaît, parce qu'elle nous raconte quelque chose qui renvoie à nos souvenirs. Et il y a comme un dialogue qui s'établit. Et en fait, avec mes œuvres, je voulais marquer ce dialogue-là avec le polymiroir, c'est-à-dire qu'on regarde mes œuvres, au bout d'un moment, on se voit dedans. C'est-à-dire qu'au départ, on ne voit pas qu'on se voit dedans, parce que c'est l'œuvre dans sa globalité. Et puis quand on s'approche, quand on essaye de la toucher, et au bout d'un moment, on se voit dedans et on voit ce rapport qui existe entre pourquoi elle nous a attirés. Et en fait, elle nous a attirés parce
qu'on se voyait sans le savoir.
Voilà,
parce qu'on se
voyait dedans. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir ce côté miroir dans mes œuvres aussi qui apparaît.
Merci pour tout ce détail, tout ce paysage d'art et d'ingéniosité que vous nous offrez aujourd'hui. Et en conclusion, est-ce qu'on peut revenir, se promener pour jeter un dernier, avant-dernier regard sur votre galerie, sur les prochaines expositions, avant que le rideau...
Ne se baisse.
Allons-y.
Alors donc, cette exposition donc, se poursuit en 2022 jusqu'à fin septembre 2022. Et donc, évidemment, bah, les personnes peuvent venir...
On rappelle où elle a lieu, géographiquement.
Alors donc, 626 Chemin de la Torchère.
C'est-à-dire, par rapport à Bourg.
À Saint-Just, 01-250.
Sur la route de Césaria.
Sur la route de Césaria.
À la Lanier, on tourne à droite.
À 5 km de Bourg-en-Bresse.
Voilà. C'est ça. Voilà.
Donc, cette exposition se poursuit. Il y aura trois événements avec les trois artistes. Le premier sera avec Serge Roca. Sera lieu le samedi 26 mars. Serge Roca fait des pièces monumentales, mais il va réaliser son premier bronze qui fait pas un kilo, mais qui fait 50 kilos. C'est une tête d'aigle et l'artiste l'a dénommé Regard sans égard.
Ouf.
Donc on aura la chance de présenter cette pièce le samedi 26 mars. Mmh. Et on aura aussi le privilège d'avoir un des fondeurs de la fonderie Adobati, qui s'appelle Aurel Adobati, qui va nous faire deux interventions, une à 11h le matin et une à 16h l'après-midi, pour expliquer comment on réalise un bronze. Il va pas faire le bronze dans le parc,
oui,
hein, on est d'accord.
Oui.
Mais il va expliquer toutes les étapes de la réalisation et on aura même le silicone, je crois que c'est un autre nom, je me souviens plus, l'empreinte.
D'accord.
Voilà. Oui. Donc ça va être très intéressant, évidemment en présence de l'artiste, Serge Roca. Il y aura un deuxième événement donc avec Martic, qu'on a fixé, je crois, le samedi 11 juin.
Oui.
Donc, il y aura les nouvelles sculptures.
Donc là, vous serez là.
Bien sûr. Les nouvelles sculptures de Martic avec, sur le thème du printemps, les fleurs.
Et on nous vient Botticelli à
voilà,
nouveau.
Voilà, bon, Botticelli, un petit peu sensuel, mais Botticelli quand même.
Mais oui.
Et nous aurons un petit événement, un défilé de mode.
Ben voilà, quelle belle idée.
Donc sur le thème évidemment des belles robes printanières, des jolies femmes. Ça sera sûrement des robes Cavaletti de la boutique Tandem.
D'accord.
Voilà. Donc ça fera un événement un peu atypique, fleuri.
Oui, bien
voilà.
Sûr, bien sûr.
Et le troisième événement, ça sera fin août, la date elle n'est pas fixée, ça sera donc avec Bertrand Fauconnet. Et le thème n'est pas encore fixé, on aura une idée mais on ne l'a pas encore eu.
Pas encore.
Voilà.
Merci beaucoup pour ce monde, je dirais en même temps, d'alchimie un petit peu quand même, puisqu'il y a du feu qui joue, de rigueur et de volupté, hein, et de grâce, je pense aussi. Merci à Jimmy pour la technique, et comme Martig, je crois, a du sang espagnol dans les veines, on va partir en Espagne faire un tour.
Non, pas du tout.
Serge Roca.
C'est Roca.
Oui, mais enfin...
Oh. Oui.
C'est pas gênant.
J'adore l'Espagne aussi.
Hein, vous adorez l'Est. C'est ce que je pense. Il y a du feu qui... En somme, il y a beaucoup de feu qui couvre sur la banquise.
Est-ce que Patrick, je peux préciser...
Oui, oui.
Allez-y.
Je peux préciser qu'à la limite, l'exposition peut être visitée.
En dehors des dates.
En dehors de ces dates-là.
Oui.
Donc, à la limite, elle peut être visitée seule, avec des amis.
Il suffit de téléphoner.
Avec des enfants, parce que c'est très intéressant.
Bien sûr.
Voilà, donc avec des amis, avec la famille.
Oui, il faut téléphoner.
Il faut téléphoner donc à Dan Poncet, 06 62 31 17 17.
Répétez.
06 62 31 17 17 ou par mail arevasion@laposte.net. ARTETEVASION. @laposte.net.
Voilà. Merci et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Viel Spaß, beaucoup de plaisir pour
et
vous.
Et de belles expositions.
De belles expositions.
De belles œuvres.
Et ce beau rendez-vous avec la nature, l'art et l'évasion. Merci et maintenant, relais en route pour l'Espagne. Merci.
Merci
au revoir.
Patrick.
Merci à tous.
Merci. Beaucoup.